Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Et bonjour et bienvenue à tous. C'est l'heure du débat avec ce sommet inédit États-Unis-Afrique organisé jusqu'à demain. 50 chefs d'État et de gouvernement africains sont à Washington. Ils parlent santé, sécurité et aussi économie. Les États-Unis veulent conquérir un marché africain en forte croissance, hein, plus de 5%. Que pensez-vous de l'organisation de ce sommet? Quels liens doivent s'établir entre Américains et Africains? En quoi les États-Unis pourraient être utiles à l'Afrique? Vous nous rejoignez au standard 09 693 2x60. 33 9 693 2 x 70 si vous nous appelez de l'étranger. N'oubliez pas notre adresse email appelaupluriel.actu@rfi.fr, nos comptes Facebook et Twitter. Ça réagit d'ailleurs sur Facebook. Hein, on a Edmond qui est totalement contre ce sommet. L'Afrique n'a pas fini de se débarrasser de la sangsue France-Afrique et on va chercher une autre sangsue sur le dos, par exemple. Pour ouvrir le débat, nous sommes en ligne avec Bruno qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Bruno.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Alors, que pensez-vous de ce sommet? Comment vous réagissez à son organisation, à cette initiative?
Je me réjouis de l'initiative du président Barack Obama pour l'organisation de ce sommet entre États-Unis et Afrique. Et j'ai apprécié particulièrement, à sa juste titre, le message du président Obama aux 500 leaders des jeunes entrepreneurs africains. Car ça a retenu à titre exceptionnel mes avis et considérations. Ce que j'ai retenu de son message, lorsqu'il a dit que, en tant que continent, la jeunesse africaine doit se mettre à jour tout en respectant le passé et la tradition africaine, mais en reconnaissant qu'elles doivent être adaptées à notre époque. Donc, à mon humble avis, le président Barack Obama a voulu dire par là que l'espoir est encore permis en Afrique. Il a voulu dire qu'en Afrique, il y a d'abondantes ressources naturelles, humaines, intellectuelles.
Mais comment les États-Unis pourraient faire bénéficier l'Afrique de ces ressources, Bruno?
Oui, les États-Unis peuvent bénéficier à l'Afrique en s'impliquant totalement au développement de l'Afrique. Et pour cela, les États-Unis doivent donner l'opportunité à la jeunesse africaine de se prendre en charge, de devenir créateur d'emplois et non demeurer éternellement demandeur d'emploi.
Donc arrêter de demander d'être dans l'attente, mais agir aussi pour la jeunesse africaine.
C'est ça justement, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce qu'ils ne sont pas dans cet esprit-là de création d'emplois. Ils veulent tout attendre de l'Europe, des Occidentaux, ils veulent toujours tendre la main.
Et vous demandez effectivement que les États-Unis s'impliquent davantage. C'est vrai que les échanges commerciaux États-Unis-Afrique, c'est 85 milliards de dollars en 2013. C'est beaucoup plus, par exemple, pour la Chine, 210 milliards de dollars l'an dernier. Les États-Unis, première économie mondiale, et pourtant seulement troisième partenaire de l'Afrique, après donc l'Union européenne et la Chine. Merci Bruno. Nous sommes en ligne avec David qui nous appelle depuis Alger. Bonjour David.
Bonjour Sébastien.
Alors pour vous, ce sommet doit également faire passer un message, notamment sur la démocratie. Ne parlons pas que de l'économie, mais également démocratie, c'est ça?
Oui, exactement Sébastien. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui faire des affaires dans un pays où le peuple manque de liberté, où ses droits sont bafoués au jour le jour, faire des affaires, mais également qui est faire la pression au niveau justement des chefs, au niveau des pays africains, qui est une justice indépendante, une police intègre pour le respect, n'est-ce pas, du peuple souverain. Parce que On peut pas comprendre déjà la position de la Chine qui est nuancée aujourd'hui, qu'on fait juste des affaires, on s'occupe pas des droits de l'homme. Alors cette position, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que elle profite juste à la Chine, mais pas au continent, pas au peuple.
Alors effectivement, sur cette question des droits de l'homme, le vice-président américain Joe Biden en a parlé hier à l'ouverture du sommet. Hein. Il a appelé les leaders africains, je cite, à lutter contre le cancer de la corruption. John Kerry, le secrétaire d'État, a dit que la plupart des peuples d'Afrique étaient favorables à la limitation à deux mandats présidentiels. Nous presserons les dirigeants à ne pas modifier les constitutions pour leurs bénéfices personnels. Un clin d'œil à différents dirigeants africains qui auraient le projet peut-être de rester au pouvoir à la fin de leur ultime mandat. Pourtant, David, on a justement certains chefs d'État qui sont critiqués au niveau des droits de l'homme et qui sont présents à Washington.
Oui, mais la position des États-Unis sur cette question, la position, elle est claire. Elle est claire parce que pour le président Obama, il pense que ne pas changer de constitution, ne pas faire qu'il y ait des... Parce qu'il ne veut pas, il veut une Afrique sans guerre civile, une Afrique sans dictature, une Afrique avec des élections véritablement démocratiques où on donne la voix au peuple, on donne le peuple décide, le peuple s'exprime librement. Et donc, au chef d'État de comprendre qu'effectivement, il est temps aussi de passer la main, il est temps, parce que le président Obama pense que le fait de changer, ça va booster un peu l'économie africaine, ça va donner de l'élan, justement. Et donc, une autre Afrique, pas celle d'aujourd'hui, le président Obama croit en une Afrique...
Une Afrique nouvelle, oui. Restez avec nous, nouvelle. David, restez avec nous, David, parce que je voudrais que vous entendiez la réaction de Junior Xavier, qui est avec nous en ligne de Libreville. Bonjour, Junior Xavier.
Bonjour Sébastien.
Donc vous êtes au Gabon à Libreville et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que dit David, notamment sur cette question des droits de l'homme. Pour vous, c'est pas prioritaire pour l'instant.
Oui Sébastien, ce que je disais c'était qu'à l'initiative du président gabonais Ali Bongo Ondimba, le fonds Trauma Generation a été mis en place par les chefs d'État d'Afrique centrale. Donc le président Obama, de mon point de vue, devrait commencer déjà par soutenir cette initiative. En tant que jeune Africain, comme je te l'ai dit, mes attentes sont d'ordre économique. Pourquoi ? Parce que le président Obama devrait, pour moi, booster la promotion des investissements directs étrangers américains en Afrique, parce que toutes les préoccupations du continent africain, que ce soit en termes d'infrastructure, de logement, de développement, de sécurité, de formation et même de démocratie, appellent des solutions économiques. Donc la solution, de mon point de vue, serait que l'économie africaine se porte mieux sous l'impulsion du président Obama.
Alors, on va faire réagir David. Vous êtes toujours en ligne d'Alger, David ?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Junior Xavier ? Faisons d'abord du business et après on verra pour la démocratie et les droits de l'homme.
Non. Cette expérience, on a tenté depuis les indépendances avec des puissances, la France, l'Allemagne, etc. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le peuple est en train de souffrir. Pendant ce temps, des affaires se font sous le dos de ce peuple qui souffre en même. Alors donc, les affaires et aussi regarder la question des droits de l'homme, c'est-à-dire les libertés fondamentales, les droits élémentaires, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne fait que des affaires. Pendant ce temps, il y a la misère et la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'il manque justement la bonne gouvernance, parce que quand on parle de bonne gouvernance, c'est qu'il y a la transparence. Or, nous voulons aujourd'hui que le peuple soit au cœur du débat.
C'est au cœur du débat, le peuple. Et justement, c'était de toute façon un des thèmes de l'ouverture du sommet hier et aujourd'hui. Eh bien, ça va être le business qui sera en tête des débats du jour avec cette US Africa Business Forum, avec des responsables politiques et du secteur privé qui vont se rencontrer, se réunir. On a 900 millions de dollars de contrats prévu pour être signé aujourd'hui. Merci à David qui nous appelait d'Alger. Merci à Junior Xavier à Libreville. 33 9 693 deux fois 70. Ferdinand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Paris et pour vous, il faut se concentrer plutôt sur un thème particulier qui est le poids de la diaspora africaine, c'est ça ?
Absolument. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement, n'est-ce pas, de l'investissement. Et le premier investisseur, n'est-ce pas, du continent africain pour l'instant, c'est de la diaspora africaine. avec plus de 47 milliards de dollars. Donc, pour moi, il est important que, au cours de ce sommet, que le président américain, qui a quand même des racines africaines par son père, puisse envoyer ce message-là au leader politique africain de s'appuyer également sur cette diaspora, pas seulement à travers les transferts de fonds, mais également à travers le transfert de connaissances, à travers le savoir-faire, le know-how pour participer, n'est-ce pas, au développement de l'Afrique.
Mais Ferdinand, la diaspora africaine ne vaudrait-il mieux pas qu'elle retourne en Afrique et travaille au dynamisme africain sur le sol africain plutôt que d'envoyer de l'argent depuis l'étranger ?
Au-delà, je ne suis pas contre les transferts de fonds, c'est très important, parce que imaginez la diaspora arrêter 6 mois, n'est-ce pas, d'envoyer de l'argent en Afrique. Je suis convaincu qu'il y aurait des émeutes en Afrique, parce que de nombreuses familles en Afrique ne vivent que grâce à l'apport, à l'aide de la diaspora. Mais je pense que le développement de l'Afrique passe également par le transfert de connaissances. Et l'Afrique a ce savoir-faire-là pour participer au développement de l'Afrique. Au moment où on parle, par exemple, de l'épidémie d'Ebola, par exemple, savez-vous que 65 000 médecins, n'est-ce pas, soit près de 20% des médecins, n'est-ce pas, africains, exercent en Occident, et que près de 70 000 infirmiers et infirmières, soit près de 10%, n'est-ce pas, des infirmiers, n'est-ce pas, exercent également en Occident.
Justement, Ferdinand, pardon de vous couper, mais c'est vrai qu'on parle d'une véritable fuite des cerveaux africains vers l'Europe ou vers l'Occident, les États-Unis. Il y a même cette boutade en disant qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin même. Absolument. Est-ce qu'il ne faut pas que ces gens reviennent, consolider l'économie africaine pour que ces gens finalement reviennent, ou en tout cas ne quittent pas le pays ?
Il faudrait que certains puissent revenir s'ils le veulent, ou tout simplement qu'on puisse créer des ponts, hein, des masses critiques, des regroupements, des pôles d'excellence, par exemple en matière de recherche scientifique et technologique, pour favoriser le take-off, le décollage véritable de l'Afrique. C'est ainsi qu'on peut décider de créer un laboratoire d'informatique, par exemple en Afrique du Sud, un laboratoire de mathématiques au Nigeria, un laboratoire d'agronomie au Congo, en RDC. Et les résultats de la recherche, n'est-ce pas, vont aider globalement les États africains à faire un saut qualitatif vers la modernité. Parce qu'on ne peut pas obliger cette diaspora-là à retourner, n'est-ce pas, en Afrique. Mais il faut dire que, j'insiste pour dire qu'il est important que le président Obama puisse, à travers son message aujourd'hui, encourager également les Américains, n'est-ce pas, d'origine africaine, à venir investir en Afrique. Parce que pour l'Union africaine, la diaspora africaine, c'est l'ensemble des personnes d'origine africaine vivant hors du continent africain qui sont désireuses de contribuer à son développement et à la construction de l'Union africaine, quelle que soit leur citoyenneté et leur nationalité. C'est-à-dire, entre dans cette catégorie, non pas seulement les Africains partis du continent qui vivent en Occident, mais également toutes les personnes qui ont des origines africaines. Donc pour moi, il est important qu'ils puissent porter ce message aux leaders politiques aujourd'hui.
Merci beaucoup, Ferdinand. On voit que le sujet vous passionne. Vous nous appelez depuis Paris, 339 693 2 fois 70. Moussa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Célestien Lemaitre. Comment vous allez?
Très bien. Vous nous appelez depuis N'Djamena, au Tchad. Et vous, par contre, vous avez un point de vue beaucoup moins enthousiaste que Ferdinand qu'on vient d'entendre. Par exemple, vous n'attendez vraiment pas grand-chose de ce sommet.
Oui, parce qu'on parle d'une Afrique générale. C'est comme si nous disposons des mêmes spécificités et des mêmes atouts. Or, il n'y a pas longtemps, le président Obama avait effectuer des voyages en Afrique et il a choisi quelques pays pour leur performance démocratique et la bonne gouvernance. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le schéma qui est présenté, c'est qu'on veut redéfinir une nouvelle coopération avec les États-Unis d'Amérique et au cœur de cette coopération, les investissements. De mon point de vue, ces investissements-là révèlent deux aspects, un aspect public et les relations commerciales. Pour ça, il faut un cadre. Il faut un cadre incitateur pour pouvoir absorber ces investissements, c'est-à-dire que créer un environnement juridique sécurisé. Et partant de là, il faudrait effectivement voir la performance de nos systèmes judiciaires, la bonne gouvernance, l'avancée démocratique, et puis la paix, la stabilité, sans laquelle il n'y a aucun investissement, il n'y a aucun développement.
Alors donc, Moussa, Moussa, les États-Unis pourraient éventuellement être utiles concrètement à l'Afrique? Est-ce qu'il faut vraiment rien attendre?
Mais les États-Unis peuvent être utiles sur plusieurs points, dans la mesure où Obama lui-même il parle des institutions fortes et non des hommes forts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si au préalable, on avait diagnostiqué pays par pays, et à l'issue de ce diagnostic, on peut positiver les points forts et les points faibles qui peuvent être nés de cette évaluation, en ce moment, on dira que X pays ne peut pas être aligné avec tel autre pays, ainsi de suite. Pour preuve, le président George W. Bush a initié deux projets de développement qui ne sont pas de moindres. Le Challenge Millennium Account, si je prends le pays de la CEMAC.
Ah, le Millennium Challenge Account, qui est un fonds de développement annoncé par l'administration Bush en 2002. Hein.
Par l'administration Bush. Il s'agit d'un financement qui prend en compte beaucoup de secteurs de développement. Et ces financements sont gratuits. Il ne s'agit pas de prêts à rembourser plus tard. Mais aucun pays de la CEMAC, la sous-région dans laquelle moi j'appartiens, c'est-à-dire la communauté des États monétaires d'Afrique centrale, de six pays, aucun pays n'a été éligible au Millennium Challenge à pointe. Alors, les conditions qui avaient été mises à l'époque par ce projet de développement-là, c'était les critères n'ont pas pu être remplis par ces États-là. Mmh. Alors moi, je pense qu'au préalable, il fallait diagnostiquer pays par pays, cas par cas, espèce par espèce, et voir dans quel angle on peut améliorer la situation de tel pays.
Améliorer le système, le climat des affaires, la justice, améliorer globalement les systèmes africains avant de pouvoir investir massivement. Merci beaucoup, Moussa, en ligne depuis N'Djamena. Nous passons au Burkina Faso. Nous sommes avec Ouagadougou et Amara qui nous écoutent. Bonjour, Amara.
Oui, bonjour, monsieur Mehmet.
Bonjour
à tous les auditeurs.
Vous êtes assez proche du point de vue de Moussa, c'est-à-dire vous êtes assez pessimiste vis-à-vis de cette initiative.
Exactement. Ce que, en fait, je voudrais rappeler aux auditeurs ici aujourd'hui, c'est que c'est l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Ils ont toujours voulu laisser l'Afrique aux colonisateurs. Maintenant que la Chine commence à constituer une menace sérieuse, il faut vraiment investir le continent africain.
C'est-à-dire donc que ce sommet, cette volonté d'investir, c'est une réaction à l'investissement massif chinois sur le territoire africain. C'est quelque chose de très intéressé.
Exactement, c'est intéressé. Et quand vous regardez un peu aujourd'hui, et les investissements en Afrique des États-Unis ne portent que pour 1%. Et l'essentiel de ces investissements vont vers les pays pétroliers. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte que le djihadisme constitue une menace et vous voyez, de plus en plus, il y a des bases militaires qui pullulent en Afrique. Moi, je pense que c'est une opportunité pour les États-Unis de se rattraper sincèrement. Le développement de l'Afrique n'a jamais compté pour les États-Unis.
Bon, se rattraper, certes, avec la concurrence chinoise, mais est-ce qu'au final, même si le projet au départ n'est peut-être pas aussi vertueux que vous l'espéreriez, est-ce qu'au final, les Africains ne peuvent quand même pas en bénéficier?
Oui, ils peuvent. Ils peuvent à une seule condition, qu'ils se laissent imposer les ordres du jour de ces sommets. On se rend compte qu'ils partent, ils ne sont pas bien organisés, séparés, dispersés. Moi, j'aurais aimé, par exemple, et l'Union africaine, du moins la Commission de l'Union africaine, présente le projet d'INTEPAD, qui est un projet de développement économique et social. Maintenant, si les grands groupes, les multinationales américaines veulent sérieusement investir, ils peuvent venir faire les affaires dans ce sens et ça va porter vraiment fruit au continent. Mais la façon dont on est en train de faire présentement, je crains fort que vraiment les Africains ne soient déçus.
Merci beaucoup, Amara. On vous entend déçu également. Vous nous appeliez depuis Ouagadougou au Burkina Faso. On s'excuse auprès de Youssouf qui nous appelait depuis Ségou et qui attendait son tour. On aura l'occasion, Youssouf, de vous entendre dans d'autres émissions. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Appel sur l'actualité. Nous parlerons de la République démocratique du Congo où l'opposition se mobilise contre une éventuelle réforme constitutionnelle. L'opposition s'est rassemblée hier matin à Kinshasa. 11 partis d'opposition dans le Nord Kivu ont même entamé une campagne de vulgarisation sur la Constitution. Que pensez-vous de l'éventuel projet de réforme constitutionnelle? Joseph Kabila doit-il partir à l'issue de son second mandat? 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez. À demain.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.